J'aimais pas ce que je disais aux gens, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas mon attitude, etc. Et du coup, le drag m'a aussi énormément aidé. Genre, je pense que sans le drag et sans tous les trucs que j'ai vécu grâce au drag, je serais pas bien.
Hope est genre fluide. Il est tantôt un homme, tantôt une femme, et sur scène, il se transforme en corbeau. C'est une personne qui s'assume aujourd'hui, mais il lui en a fallu beaucoup pour en arriver là. Vous écoutez Guérir sur scène, un podcast d'Ilham Cheblaoui.
Partons à Londres.
Je croyais qu'on faisait un voyage dans le temps.
Alors on peut faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Et puis Londres, c'est un battement d'ailes d'ici.
Ah, ce n'est pas Corbeau qui nous dira le contraire. Transformé en créature mi-oiseau, mi-beau gosse suite à la mort de la reine Elisabeth II, ce soir il se pose sur scène accompagné de son comparse, Timothy.
En gros, l'histoire de Corbeau, c'est que c'est un corbeau de la Tour de Londres qui, en fait, à la mort de la reine Elisabeth, s'est retrouvé transformé en créature mi-humain, mi-oiseau. Et qui, du coup, forcément, c'était un oiseau avant, donc il a pas trop les codes sociaux et tout, tu vois, donc il fait un peu flipper. Et en fait, Corbeau a évolué et je veux maintenant que Corbeau, ce soit la fête. Faire la fête avec le public, donner de la joie au public, donner des moments mémorables au public où le public va se dire « c'est trop cool, je suis joie, c'est cool ». Je suis née à Blois. Et donc, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon collège et mon lycée là-bas. J'étais une enfant, en fait, à l'époque, un peu surdouée à l'époque. Genre, j'ai su lire quand j'étais en maternelle. Du coup, j'ai toujours eu cette image où je devais rester la bonne petite fille parfaite. Et comme mon frère, il partait un petit peu dans ses délires, quoi, assez colérique, etc., avec mes parents, même à cet âge-là, forcément, c'était un peu compliqué.
Tu te sentais à ta place au sein de ta famille ?
Pas vraiment, mais je me sentais pas à la place à la fois dans ma famille mais aussi dans le monde et dans la réalité. Je me suis beaucoup enfermée dans les histoires que je lisais, dans internet aussi, tout ça. Et très rapidement, en fait, ma vie ne me convenait pas et j'avais envie d'être quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est certain d'avoir eu un petit peu ces envies d'être des personnes surnaturelles avec des super pouvoirs, avec des vies incroyables, etc., tu vois, d'être une star ou des choses comme ça, et puis de pas trop se sentir à notre place en tant que petit campagnard, pas trop aimé des autres, quoi. Au niveau des amis, j'avais l'impression d'avoir des amis, effectivement, donc qui m'appréciaient pour qui j'étais, etc. Et en fait, le truc que je me rendais pas compte, c'est que j'avais des amis parce que ma mère était directrice de cette école. Donc quand je suis arrivée au collège, je pense que ceux que je considérais comme des amis n'avaient plus cette pression de devoir être amis avec la fille de la directrice. Donc c'est à partir du collège que ça a commencé à être compliqué, j'avais vraiment genre 3 amis, quoi. J'étais beaucoup harcelée, quand même, littéralement par tout le collège. Genre, je me souviens d'un moment où t'avais tout le monde qui m'entourait en cercle pour se foutre de ma gueule, des trucs comme ça, tu vois, quand même. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment toute la cour, tu vois, tout le collège. J'ai développé... Alors je suis pas diagnostiquée, donc j'aime pas dire comme ça, mais ce que je pense être une dépression et clairement des envies suicidaires, automutilation, etc. à cette époque, et puis personne faisait rien. Je portais des manches longues pour pas que mes parents voient. En cours de sport, je pense qu'il y en a qui ont vu que j'avais des marques, mais qui faisaient rien. Donc ouais, c'était très compliqué à vivre. Il y avait le harcèlement, le fait de se sentir seul face au monde, et justement de n'avoir pas de relation amoureuse alors que je lisais tout le temps par exemple des mangas, des trucs comme ça, des œuvres de fiction où les jeunes damoiselles se faisaient sauver par leur prince charmant, etc. Et où moi je rêvais de ça et où j'avais l'impression que du haut harcèlement j'aurais jamais d'amour de qui que ce soit, tu vois. Donc j'étais en mode je veux m'arrêter là, en fait. « Avec mon corps physique, j'étais pas bien du tout. Parce qu'à l'époque, j'étais plus en bon point. Et j'avais beaucoup de mal par rapport à ça. Genre, j'étais même obèse, tu sais. Et j'avais beaucoup de mal avec mon image de moi parce que je suis poilue de ouf. Je me rasais les poils de bras. Parce que justement, il y avait des gens qui me harcelaient pour ça, qui genre me disaient que c'était dégueulasse, des trucs comme ça à la gueule. Horrible, quoi, horrible. Donc j'écoutais tout le temps les autres parce que je voulais rentrer dans le moule des autres et je suis jamais rentrée dans le moule des autres, quoi. Ça s'est calmé à partir de la deuxième, troisième année de licence parce que je me suis de plus en plus mêlée au milieu queer. Là, j'en avais vraiment plus rien à foutre et je suis devenue ça et je me trouve classe. Donc là, on va aller retrouver Folio, un pote drag king que j'ai rencontré il y a un bon petit moment. On va le retrouver au bar, au canapé queer, histoire de papoter un petit peu.
C'est Folio!
Ça a l'air vraiment bon, t'es joué de celui-là. C'est dommage qu'elle coûte 10 euros. J'ai quand même hâte d'être le 27. Ça va être cool. Ça va être quelque chose, cette paire. Je crois que j'ai jamais fait autant d'accessoires pour une paire. C'est toujours hyper intéressant de discuter avec des potes qui font du drag. C'est un peu comme avoir à la fois des collègues et avoir des amis super proches. Et ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Je me sens bien entourée. Parce que vraiment, dans le milieu queer, en fait, je pense qu'on est beaucoup à faire preuve d'empathie et à beaucoup s'épauler. Et ça, dans la communauté queer, c'est ce que j'ai beaucoup plus retrouvé par rapport au moment où j'étais plus dans la communauté hétérosexuelle cis. Et j'avais pas cette forme de soutien de personnes qui savaient ce que j'avais vécu, qui comprenaient surtout ce que j'avais vécu. On dit souvent le terme de famille choisie pour la communauté queer, en mode genre les gens que tu considères comme des frères, comme des sœurs, etc. Où vraiment tu vas être proche amicalement. Et j'ai vraiment ce concept-là qui est né depuis que j'ai intégré cette communauté queer et où je me suis sentie plus épanouie. Et où je me suis plus retrouvée, quoi, où je savais que je serais défendue et safe surtout. Quand j'ai commencé à être en art plastique à Rennes, il y avait de plus en plus de moments où en fait je me maquillais en mec, où je mettais une perruque qui me faisait me sentir plus mec. Et j'ai commencé à en parler à des potes et j'étais en mode bah c'est trop chelou. Je sais qu'il y a des moments où je veux être un mec mais je veux pas être un mec tout le temps et tout. Et je me suis rendu compte que le terme genre fluide me définissait et définissait ce que je ressentais. Et du coup c'est vraiment à cette période là où je me suis plus questionnée, etc. Genre quand je suis une femme, je vais être plus à l'aise pour porter des jupes et pour porter des fringues qui sont codées féminines dans la société. Ça va aussi beaucoup passer par la voix. Genre quand je suis un mec, j'ai tendance à plus aller dans les graves au niveau de ma voix, à plus faire attention à la façon dont je m'exprime aussi. Et puis surtout quand je me sens mec, je vais porter un binder. Donc qui sont ces choses-là, tu vois, ces trucs que tu mets pour aplatir ta poitrine.
Qu'est-ce qui t'a amené du coup vers le drag? Est-ce que t'as été influencée par les films, la musique, des trucs que tu regardais sur le net? Comment ça s'est fait?
J'ai eu cette envie de faire du drag quand j'étais à Rennes. Je connaissais Drag Race, etc. Forcément depuis longtemps, parce que dès que tu rentres dans le milieu queer, tu connais Drag Race, quoi. Tout le monde en parle.
Drag Race fait son grand retour pour une nouvelle saison.
Parmi des centaines de candidatures, c'est vous qui avez été choisi pour représenter l'excellence du drag français.
Maintenant que je suis à Strasbourg et que je sais que je vais rester à Strasbourg, il y avait le collectif des Kings Dorés qui faisait une perf de drag king. Et ils ont expliqué qu'en fait, ils faisaient des ateliers pour faire du drag king. Donc j'ai commencé avec leurs ateliers de drag king. Puis après, ils étaient en mode, et du coup, vous pouvez monter sur notre prochaine scène qui aura le thème crush. J'ai réussi à m'incruster. Et à partir du moment où tu commences à être incrusté, tu te fais forcément des potes dans ce milieu, surtout quand tu veux continuer et que t'es déter. Et là, ça va tout seul.
Tu m'as dit que ça fait une semaine que tu travailles sur tes accessoires pour ta perf. Il te reste quoi à faire ce soir?
Je vais continuer de rectifier la peinture pour finir l'arbre généalogique. Comme ça, au moins, j'aurai juste cette horloge à faire. Et ce sera le dernier truc qui sera à faire pour cette perf, en fait. Tout est quasi prêt. Tout ce qui est reveal, etc., tout ce qui est accessoires et tout, c'est des trucs qui peuvent chauffer le public. J'aime trop créer des trucs de A à Z et voir l'évolution et voir que ça avance aussi. Ça me vide un peu l'esprit, je me concentre que sur un truc. Et comme je t'avais déjà dit, le drag ça m'a beaucoup aidé vis-à-vis de la dépression. Et puis justement ça me permet de pas penser à des trucs qui me stressent, etc. Genre ça m'occupe quoi, ça m'occupe. Ouais, ça m'apporte du calme. J'aime bien ces petits moments-là où j'ai l'impression d'être productif. Parce que la plupart du temps, en fait, quand je suis chez moi, je suis pas souvent hyper productif. Genre, je traîne énormément sur mon PC parce que j'ai passé toute mon enfance à ça, en fait. En soi, je suis prêt. Bon, mon horloge n'est pas prête, mais je suis prêt. Genre, je suis grave prêt. Trop hâte de faire cette perf. Je suis persuadée que ça va marcher. Et vu la tronche des accessoires et vu le taf que je fais, je pense que le public va aussi kiffer ce côté-là.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans l'univers du drag ?
Se faire booker. Trouver des scènes. Parce qu'en fait, les drag queens sont souvent plus bookées de leur côté parce qu'elles intéressent beaucoup plus le public lambda, tu vois. Genre, très souvent, les drag queens qui vont avoir l'habitude de faire tout ce qui est effeuillage, etc. et tout, genre striptease et compagnie, ça intéresse plus le public lambda de voir des mecs déguisés en meufs que de voir des meufs performer la masculinité.
Qu'est-ce que tu cherches, toi, à transmettre à travers cette performance, à travers tes performances, à travers le drag?
Je veux que les gens kiffent le moment qui passe en voyant mes perfs. Et je veux surtout que les gens se disent « Ah mais en fait, le drag, c'est pas ce que je pensais, c'est pas un truc qui va transformer mes enfants en personnes LGBT, ouin, etc. » Bon, je schématise bien sûr, mais c'est pas un truc dangereux ou flippant, c'est cool et tout le monde peut kiffer, quoi. Le drag, c'est pas genre juste des créatures un peu cheloues, etc. Extrêmement sexualisées, parce que t'en as plein qui pensent que c'est extrêmement sexuel, le drag, tu sais, alors que pas du tout. Et c'est de l'art, quoi. Alors, écoute, c'est parti pour le maquillage. Là, comme le diamant, c'est vraiment à côté de chez moi. Autant que je me maquille là, tranquillement, avec toute la place que je veux, avec de la musique en fond, des trucs comme ça, etc. Plutôt que d'être au milieu des loges. Après, des fois, ça peut être un peu stressant parce que t'en as forcément qui sont très stressés avant de passer, etc. Donc, ça dépend vraiment le mood que tu veux avoir, quoi. Ce que je peux faire aussi, c'est réécouter la musique sur laquelle je vais passer en boucle. Comme ça, je la connais bien. Hop! Donc on utilise bien le fond de teint.
Quelle facette de ta personnalité tu as pu découvrir à travers Corbeau ?
Le fait que j'aimais bien les gens. Non, le côté très extraverti. Très très extraverti. Vu que Corbeau il ose un peu tout faire sur scène, tu vois. Du coup je me rends compte que c'est pas si mal d'être sur le devant de la scène.
Ça te gêne pas de sortir comme ça dans la rue ? Une perruque blanche, un look gothique un peu.
Si, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Mais comme je t'ai dit, par exemple, je traverse la rue et on y est. Donc ça va. Quand, par exemple, je vais dans un bar, etc., et que je suis maquillée en drag, pour aller voir un drag show ou des trucs comme ça en tant que public, je mets un masque, je me couvre le plus possible, je mets un énorme manteau et tout. Ça fait encore plus suspect, mais bon, ça passe.
Pourquoi ça te gêne autant ?
Parce que t'as toujours peur de la réaction que peut avoir le passant, en fait. Nous aussi, on est ciblés, tu vois. Parce que, en fait, rien que le fait de porter ce type de maquillage, c'est un petit peu montrer clairement que t'es une personne queer. Et t'as des gens qui peuvent vouloir t'attaquer pour ça. Hein. C'est déjà arrivé tellement de fois à des potes. Même quand j'avais un maquillage moins masculinisé que ça, tu vois. J'ai eu un mec qui était en mode... c'est un mec ou une meuf attends, je vais mater ses nichons, je vais voir, des trucs comme ça.
Même en civil, t'as déjà eu des remarques ?
Ouais. Rien que le fait d'avoir les cheveux bleus, t'imagines même pas. Il y a une fois, j'étais à Rennes, j'étais dans le métro, et j'avais ma crête bleue. Moi, je considère ça comme étant en civil, tu vois, en plus, je rentrais de soirée, j'étais un peu... Et puis, t'avais deux grand-mères assises devant moi, qui ont littéralement demandé à tout le métro si ça se faisait de sortir comme ça. J'étais pas maquillée, j'avais rien, j'avais juste ma crête bleue. Il y avait rien, tu vois, juste une crête bleue et elles en pouvaient plus de leur vie. Quand même sortir comme ça dans la rue, moi je trouve pas ça convenable.
Mais ça te fatigue pas
Bah un peu. Te dire, en fait, c'est surtout sur le coup quand tu te dis que tu vis dans une société pareille, quoi, avec des gens qui jugent autant alors que... Il y a 100 fois plus important comme problématique actuellement, merde. Et eux, ce qui les fait chier, c'est que j'ai une crête bleue et que je prenne le même métro qu'eux.
Mais t'as toujours été comme ça. Enfin, t'as toujours assumé ton look quand tu sortais.
Ouais, plutôt, ben.
Comme c'est venu avec le temps.
C'est quand même venu avec le temps parce que, comme je t'ai dit, j'étais pas mal harcelée avant et puis j'avais beaucoup de mal. J'ai commencé à sortir avec un couteau et une bombe au poivre. Et ça c'est fait. Bon, c'est un peu horrible à dire, mais c'est vrai, genre je sors jamais sans un couteau et une bombe au poivre en fait.
Ah, j'ai reçu un message de Tim. Tim, c'est le drag king qui va performer avec moi ce soir.
Et ok, moi j'ai fini de re-rassembler les affaires, de tout checker pour être sûr. Je me rafraîchis un petit coup. Je remodifie juste un peu ma coiffure et puis je veux aussi aller tranquille au bilou. Donc on arrivera dans les mêmes eaux. À tout de suite, ça va être trop bien.
Yes. Bah écoute, je viens de finir mon maquillage, donc je m'habille un peu. Et bah je pense vers 18h15, 18h30, je serai là. Faut me laisser le temps de pisser, quoi. À toutes, ça va être génial. Je suis prêt, on a tout ce qu'il faut. Bah c'est parti, hein.
Bonsoir, vous ici, bonsoir.
Salut,
ça va?
Salut, ça va. J'ai pas regardé la line-up, tu performes
ce
soir ou pas?
Ouais, premier du troisième set. Parce que je suis une saleté qui a une masse d'accessoires installée.
Oui, tu déménages à chaque fois.
C'est ça. Bah là, j'ai une horloge, s'il te plaît, et un porte-manteau.
Finaise. Vous êtes pas prêts, hein? Moi, je crois que je passe à peine la porte si le rideau est pas tiré.
Yes.
Vous attendez beaucoup de monde?
On a en général, je crois que la jauge c'est 120, 130, un truc comme ça.
Voilà, entre 100 et 150 personnes, donc...
C'est pas trop impressionnant?
Non, parce que c'est cool le diamant, c'est schlag. Enfin, les gens sont plutôt bienveillants, quoi. Non mais bon, c'est une salle qui est plutôt bienveillante.
On va faire l'appel les enfants.
Oui.
Déjà, est-ce que vous allez bien, hein?
Oui.
Est-ce que vous êtes chaud, chaude?
Oui.
Alors, je vais faire l'appel. Est-ce qu'on a Freddy?
Il, et du coup ce soir je suis à la régie light avec Ellie.
Bon bah Marceline c'est moi, mais avec notre soeur Amarante von Scarlett.
C'est elle,
Knight.
Oh, ah oui, pardon. Moi c'est elle, il, ce que vous voulez en vrai. Ozef. Okay. Voilà.
Mounalisha.
Ah, tu vois.
Tous les pronoms.
Oh, qui est aussi dans la house. Est-ce qu'il y a des questions? Point de question.
Très bien.
Mon travail à merveille.
On y croit. YOLO.
C'est dans combien de temps là?
Bah ça va être là je pense. Ça va être là. Je passe en premier du set donc let's go. Ça va être bien.
Bienvenue au drag show Trip to the Past de la House of Diamonds.
Déjà, c'était exceptionnel.
Merci.
Est-ce que tout était planifié ou pas?
Quand je remontais le temps une première fois, Tim devait ressortir habillé comme dans le bar, tu vois, comme si j'avais juste remonté un petit peu le temps. Et là, je le vois habillé à l'époque de la guerre, qui est censé venir au refrain d'après. Et j'étais en mode, est-ce qu'on arrête la perf? Non, c'est lancé. Allez, on continue.
Donc c'était en freestyle, quoi.
Alors là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à l'horloge qui pète, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce que tu me fasses ça.
Mais c'est grave, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une bêtise, c'est un flop.
Bah, justement, on a improvisé, le public était à fond, le public s'en fout. Quand il y a des flops, tant que t'assumes et que tu te laisses pas submerger par les émotions, le public est à fond. Et là, le public avait l'air à fond. Bah du coup, on sera obligé de la refaire et cette fois-ci, tu l'as fait bien. Tu ne stresses pas. Toujours assumer quand il y a des trucs qui vont pas. Et là, vraiment, on a assumé de A à Z. C'est ce qui compte. Ouais, c'est pas déjà un aboutissement, c'est quelque chose qui va évoluer, je le sais. Et on verra bien où ça me mène. J'ai pas envie de faire des plans sur la comète.
Et sur le plan personnel?
Il y a quand même une idée d'aboutissement, effectivement, parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours été l'enfant très persécuté, très renfermé, qui se disait que il pourrait rien faire de sa vie et il pourrait certainement pas monter sur une scène, tu vois. Donc J'ai quand même réussi quelque chose vis-à-vis de moi, tu vois. Mais je considère quand même que je réussirais encore plus quelque chose si ce rêve de réussir à vivre du drag puisse se faire. Genre là, ce serait l'aboutissement si je peux vraiment en vivre. Ce qui est compliqué, car je suis drag king. Et que je montre pas trop mon cul. Je sais que si j'arrête le drag, je serai extrêmement triste. Genre, je peux pas arrêter maintenant, quoi. Parce que je sais que ça me foutrait mal de pas remonter sur scène, de pas avoir le public. Je suis peut-être pas beaucoup payée, mais ça m'apporte quand même beaucoup. Ça m'apporte beaucoup d'appréciation de la part du public, ça m'apporte beaucoup d'amis. Genre, quand même, tu vois, ça apporte tellement d'aventures et tout. Et puis moi, je veux vivre d'aventures, je veux faire vivre les autres d'aventures et de bonheur aussi. J'ai envie de continuer là-dedans pendant un moment jusqu'à ce que je sache que, ben, à un moment, faudra que peut-être j'arrête. Ou alors je crèverai sur scène. Tel Shakespeare.
C'était Guérir sur scène, un podcast d'Ilham Cheblaoui. Mixage, Jean-Christophe Galen. Je tiens à remercier Hope et les performeuses et toute l'équipe passionnée de la House of Diamonds.